Et voici le journal d'Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La deuxième vague de Covid-19 a bel et bien franchi la porte de l'Europe. 52 000 nouveaux cas en France, des chiffres tout aussi inquiétants en Italie et Espagne et une réponse similaire à l'épidémie. Le couvre-feu de plus en plus élargi dans ces pays. En France, l'exécutif n'hésite plus à évoquer un reconfinement, ce que de plus en plus d'infectiologues demandent également. Précision d'Adrien Paluet.
Malgré la recrudescence de l'épidémie en France, l'explosion du nombre de contaminations, l'application Tous anti-Covid n'est toujours pas plébiscitée par les Français, ce qui complique de plus en plus la tâche des brigades en charge du traçage manuel des malades. Explication d'Hélène Chevalier.
Direction le Chili ensuite, où a eu lieu hier un référendum. Un an après le mouvement social massif qui a touché le pays, la population se prononce en faveur de l'abandon de la constitution néolibérale héritée de la dictature de Pinochet, correspondance de Justine Fontaine.
L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est dans moins de 10 jours maintenant, dans une Amérique plus divisée que jamais. Reportage dans l'Ohio, un état qui a basculé républicain en 2016, où les militants de Joe Biden se mobilisent pour battre Donald Trump. Claude Guibal les a rencontrés.
Et puis 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste tchétchène, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend en Russie aujourd'hui pour convaincre Moscou d'accueillir les ressortissants radicalisés. Il risque de faire beaucoup plus froid qu'au printemps pour applaudir les soignants au balcon. Le cap du million de cas de Covid-19 en France, dépassé vendredi, 45 000 nouvelles contaminations samedi. Et hier, ce nouveau record, 52 000 personnes testées positives au Covid. Données auxquelles on peut ajouter cette donnée très parlante, le taux de positivité des dépistages est passé de 4,5% début septembre à 17% aujourd'hui. L'exécutif avait prévenu de cette détérioration avec les services de réanimation qui se remplissent de plus en plus et le spectre d'un reconfinement qui fait de nouveau son apparition. Le gouvernement l'évoque. Il ne faut absolument rien écarter, disait hier à ce sujet Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, tout en précisant bien vouloir tout faire pour l'éviter. Ce retour du confinement semble en revanche inéluctable pour certains médecins. Adrien Paluet.
Limiter les contacts entre individus, c'est le seul moyen pour enrayer une épidémie, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le couvre-feu mis en place ces derniers jours semble alors tout à fait justifié. Mais selon le médecin, le manque de pédagogie autour de cette notion de couvre-feu pourrait être préjudiciable.
Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les Français commencent à vivre à l'anglaise. Ils ont décalé un certain nombre d'activités du soir, le repas notamment, l'avance à 18h. Et qu'en fait, en faisant ça, finalement, on déplace le problème. Ça me fait penser que on risque d'avoir quasiment aucun effet bénéfique sur les contaminations et donc le nombre de cas qui arrivent à l'hôpital dans les prochains jours.
Parce qu'il existe aujourd'hui une différence majeure avec le plus fort de l'épidémie au printemps dernier. Le virus circule activement sur l'ensemble du territoire. Pour Benjamin Davido, il faut donc pousser plus loin la logique du couvre-feu.
La première étape, c'est que je pense qu'il faudrait mettre le couvre-feu dans l'ensemble du territoire, parce que la réalité, on le voit bien, c'est qu'il n'y a aucune ville qui est épargnée, et que tant bien même on voudrait soulager les villes qui aident, comme Bordeaux, permettrait de stopper la transmission du virus dans ces villes, et donc avoir une certaine marge de manœuvre.
Et de la distanciation entre les individus.
Il faudrait, si on veut éviter le confinement, qu'on favorise massivement, lorsque c'est possible, le télétravail.
Ces mesures de confinement, partielles ou totales, subissent des critiques venant d'une partie de la communauté scientifique qui demande plutôt de se concentrer sur les tests.
Adrien Paluet, face à la recrudescence de nouveaux cas positifs, la tension augmente dans les hôpitaux. Les premiers transferts de patients de la seconde vague ont eu lieu la semaine dernière. La nouvelle version de l'application de traçage, Tous anti-Covid, est arrivée jeudi, mais elle ne jouit toujours pas d'un grand succès, téléchargée seulement par environ 4 millions de personnes maintenant, ce qui ne facilite pas le travail des brigades chargées du traçage manuel des contacts. Ils sont environ 20 000 sous la direction de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ils se relais 7 jours sur 7 pour contacter en moins de 24 heures les personnes testées positives et identifier leurs cas contacts. Mais l'intensification de l'épidémie, la cadence est difficilement tenable, ce qui pousse la CNAM à modifier sa stratégie. Hélène Chevalier.
Ces derniers jours, les agents chargés du contact tracing ont appelé plus de 100 000 personnes quotidiennement. C'est 5 fois plus que début septembre. Mais la saturation est proche. La proportion de personnes ayant pu être jointes diminue d'ailleurs depuis 2 semaines. La stratégie va donc changer. Les cas contacts ne seront pour la plupart plus appelés, explique Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie.
Les cas contacts, pour un certain nombre d'entre eux, on va d'abord avoir une information SMS mail pour ceux pour lesquels on a notamment un compte Amélie. Et on va vérifier si les gens ouvrent ce mail et on va les appeler dans la foulée s'ils n'ouvrent pas ce mail dans les 24 heures. Et on va aussi rester évidemment disponible pour les personnes qui auraient des questions et qui auraient besoin d'accompagnement.
Les appels seront passés en priorité aux patients zéro, ceux qui ont été testés positifs, avec là aussi une nouvelle méthode pour écourter la durée des coups de fil. Actuellement, un agent de la CPAM passe en moyenne entre 20 et 30 minutes par appel.
Les patients positifs reçoivent un SMS avec un outil qui leur permet de préparer plus efficacement la définition de ces cas contacts. J'ai fait le didacticiel et j'ai compris qu'en fait, j'ai eu tel contact à tel moment avec telle personne. Donc ça va permettre de rendre l'entretien plus efficace parce qu'il sera mieux préparé.
La CNAM espère que cette nouvelle stratégie lui permettra, malgré la croissance exponentielle des cas, de continuer à contacter les patients zéro en moins de 24 heures.
En attendant, pour tenter d'inverser la courbe de l'épidémie, le couvre-feu est élargi depuis ce week-end pour près de 46 millions de Français au total. Un durcissement de celui-ci ainsi que d'autres mesures plus drastiques sont envisageables aux yeux du gouvernement. Une réponse à l'épidémie qu'on observe également chez nos voisins, parmi les plus touché comme en Espagne après 7 mois de respiration après la première vague. Le gouvernement espagnol vient de décréter à nouveau l'état d'urgence sanitaire annoncé hier par le Premier ministre Pedro Sanchez. Il doit durer 6 mois assorti d'un couvre-feu nocturne pour tout le pays, sauf les îles Canaries. Plus personne dehors entre 23h et 6h du matin, Marie-Hélène Ballestero.
Pour faire face à la deuxième vague du Covid-19, Pedro Sanchez a demandé aux Espagnols hier de limiter les déplacements et les contacts qui ne sont pas indispensables. Il s'est adressé tout particulièrement et à plusieurs reprises aux jeunes, conscient que c'est difficile pour eux de restreindre leur mobilité et leur vie sociale. Mais comment réagissent ces jeunes à l'annonce du nouvel état d'urgence sanitaire et du couvre-feu nocturne ? Jeune étudiante universitaire, Alba reste très sceptique.
Réellement, je ne pense pas que la situation change, car les jeunes vont continuer à chercher d'autres façons de s'amuser. Par conséquent, au-delà du fait que je trouve excessif de décréter un état d'urgence pendant 6 mois, je pense que le couvre-feu ne va pas du tout être efficace.
À 19 ans, Barbara est partagée. Elle reconnaît que des mesures sont nécessaires pour combattre le Covid-19, mais elle remet en cause le couvre-feu.
C'est clair que les gens ne vont pas rentrer chez eux à 23 heures. On devrait être plus conscient et ne pas le faire, oui, mais est-ce qu'on obéit ? Non. Je pense même que ces mesures vont nous inciter à nous rassembler dans des lieux fermés et à être plus nombreux que si on était à l'air libre ou dans un bar.
La mise en place du nouvel état d'urgence et notamment du couvre-feu nocturne s'annonce compliquée en Espagne. C'est pourquoi hier encore, Pedro Sanchez a appelé les Espagnols à l'unité, la responsabilité et la discipline sociale. Il les a invités également à rester au maximum à la maison pour éviter les cas de contagion. Un message que les jeunes Espagnols ont du mal à entendre pour l'instant.
Marie-Hélène Ballestero. En Italie, 2 nouvelles régions, le Piémont et la Sicile, seront soumises à un couvre-feu. Elles s'ajoutent aux 3 autres, Lazio, Lombardie et Campanie, qui ont déjà adopté cette mesure la semaine dernière. Cinéma, théâtre, salle de gym et piscine vont fermer aujourd'hui jusqu'au 24 novembre. C'est l'un des vestiges de la dictature d'Augusto Pinochet auquel vont enfin pouvoir dire au revoir les Chiliens. Ils ont très largement dit oui hier à une nouvelle constitution. C'était l'objet d'un référendum historique. 78% des votants ont fait le choix d'abandonner la constitution actuelle, texte qui protégeait le modèle économique néolibéral imposé pendant la dictature, modèle qui a été dénoncé l'année dernière lors d'un mouvement social massif. C'est donc une victoire de ceux qui étaient descendus dans la rue à l'époque et qui ont laissé éclater leur joie hier soir. Dans Santiago, reportage de notre correspondante Justine Fontaine.
Sous les feux d'artifice, plus de 10 000 personnes se sont réunies dans la soirée, place de la Dignité, comme l'ont rebaptisé les manifestants depuis le mouvement social d'octobre dernier contre les inégalités. Je suis vraiment heureuse que le oui ait gagné, dit Maria Fernanda, 33 ans. Peut-être que je ne verrai pas de changement aujourd'hui ni demain, mais je pense que mes enfants et mes petits-enfants, eux, en verront. Et c'est ce qui compte pour moi, explique cet habitant d'un quartier populaire de Santiago. Guillermo, 47 ans, tient à remercier les jeunes qui ont lancé le mouvement social il y a un an. Les gens de ma génération sont les enfants de la dictature, dit-il. Mais la génération suivante, celle de nos enfants, est arrivée et elle a réussi à obtenir que les choses changent. Aujourd'hui, c'est la fin de la dictature de Pinochet et c'est un moment historique. Ce vote est un exemple de démocratie, assure-t-il. Les mesures les plus antidémocratiques de la Constitution, héritées de la dictature, ont été retirées petit à petit après le retour à la démocratie. Mais le modèle néolibéral imposé sous Pinochet est aujourd'hui encore protégé par la Constitution. Et ce dimanche, les Chiliens ont massivement démontré qu'ils souhaitaient mettre fin aux inégalités produites par ce modèle.
Justine Fontaine, une assemblée constituante sera donc élue en avril pour rédiger un nouveau texte. Le président Sebastián Piñera appelle maintenant à l'unité de son pays autour de la future constitution. Aux États-Unis, l'avenir du pays se joue dans moins de 10 jours. L'élection présidentielle, le 3 novembre prochain, et l'Amérique est plus que jamais divisée. Seulement 3 à 5% d'indécis selon les derniers sondages. Des sondages qui donnent toujours Joe Biden en tête face à Donald Trump au niveau national. Et ce sont vers les swing states, les états pivots du Nord, jadis acquis aux démocrates et perdu lors de la dernière élection, que tous les regards sont maintenant tournés, comme l'Ohio, fief démocrate raflé à quelques milliers de voix près par Donald Trump en 2016. Claude Guibal est allé à Youngstown voir ces militants de Joe Biden qui se mobilisent pour reconquérir l'État.
I voted for Joe Biden.
Judy Taylor vote Biden. Derrière le comptoir de la boutique de meubles un peu poussiéreuse et vide où elle attend les clients, Judy le raconte. Elle vient d'une famille ouvrière issue de la sidérurgie, jadis si florissante ici et dont le déclin a laissé tant de gens sur le carreau. Mais ce n'est pas tant l'état de l'économie qui guide aujourd'hui son vote.
J'attends de lui qu'il écoute les scientifiques et qu'il oblige tout le monde à porter le masque.
À un bloc de là, entre deux bâtiments en briques rouges, Carol Rimedio Righetti, une élue du comté, dit à peu près la même chose.
Il y a des pauvres ici. La classe moyenne, ils ne peuvent pas se payer une assurance santé. Deuxième chose, il faut rendre sa crédibilité à ce pays.
Darmon, lui, a 31 ans, on le croise là dans la rue où il est sorti quelques minutes pour respirer sans son masque.
Je pense que les États-Unis sont un tournant et que Biden est celui qu'il faut pour ce job. En plus, il a fait du bon boulot quand il était le vice-président d'Obama.
Assis à la terrasse du pub voisin, Kent, ingénieur, attend sa bière.
Et il saura s'entourer des bonnes personnes pour nous remettre sur les rails. Si Mickey était candidat à la présidentielle, je voterais pour Mickey.
Et Kent, de lever les yeux au ciel, brouillé par les feuilles oranges et jaunes de cet automne qui tombe sur le Midwest américain.
C'est maintenant la dernière ligne droite pour la campagne, mais déjà beaucoup d'Américains ont voté. Le vote par correspondance vient de battre le record de 2016. Près de 60 millions d'électeurs ont déjà déposé leur bulletin. Avant même son entrée en vigueur ce matin, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de rompre le cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Erevan dénonce des tirs d'artillerie sur le front. Bakou rétorque en pointant du doigt des bombardements des forces arméniennes. C'est la troisième trêve décrétée et avortée depuis le début du conflit fin septembre.
8h12 sur France Culture, la suite du journal d'Adrien Toffolet. Recep Tayyip Erdogan porte étendard de la contestation anti-Macron ce week-end.
Le président turc s'est attaqué 2 jours de suite au président français à qui il est reproché de défendre les caricatures du prophète Mahomet et de vouloir légiférer sur le séparatisme islamiste. La France, en conséquence, a rappelé à Paris son ambassadeur à Ankara. Le Quai d'Orsay, par ailleurs, dénonce la minorité radicale, selon les mots du ministère, qui appelle au boycott des produits français dans plusieurs pays musulmans et demande à ce que le mouvement prenne fin. 10 jours après l'assassinat de Samuel Paty, la liste des pays qui disent que la publication des caricatures est une provocation s'allonge. Plus préoccupant en France sur ce sujet, l'unité nationale est bien loin. Il en sera d'ailleurs question dans le billet politique de Frédéric Saïs juste après ce journal. Gérald Darmanin, après avoir occupé le terrain en France depuis le drame, est aujourd'hui en déplacement en Russie. Il doit y rencontrer son homologue russe, le ministre de l'Intérieur, Vladimir Kolokoltsev. Le but de ce déplacement est d'essayer de convaincre la Russie d'accueillir les ressortissants tchétchènes radicalisés que la France souhaite expulser de son territoire, Stéphane Robert.
Ce déplacement de Gérald Darmanin en Russie est un peu improvisé. Initialement, le ministre de l'Intérieur devait être ce lundi en Algérie, mais l'Algérie vit actuellement au rythme d'une campagne électorale en vue d'un référendum le 1er novembre sur une modification de la Constitution. Les autorités algériennes ont donc demandé à la France, nous explique-t-on Place Beauvau, de différer ce déplacement. Dont acte, Gérald Darmanin a du coup proposé la semaine dernière de se rendre en Russie pour les mêmes motifs, parler des ressortissants radicalisés que la France souhaite renvoyer dans leur pays d'origine. Parmi les 231 étrangers identifiés, un nombre assez significatif sont des Russes, affirment les services de Gérald Darmanin, notamment des Tchétchènes. Le ministère refuse de dire combien, mais le ministre de l'Intérieur français va donc essayer de convaincre son homologue russe, Vladimir Kolokoltsev, de les récupérer. Les discussions, cependant, s'annoncent difficiles. Déjà parce qu'il faudra prouver qu'il s'agit bien de ressortissants russes. Pour ce qui concerne l'auteur de la décapitation à Conflans-Sainte-Honorine, les Russes ont reconnu qu'Abdullah Kantsorov était né à Moscou, mais ils ont aussi fait savoir qu'il avait passé la majeure partie de son enfance en France et donc qu'il n'avait plus rien à voir avec la Russie. Ensuite, les Russes n'ont pas oublié les critiques émises par la France à l'encontre de la répression anti-tchétchène au début des années 2000. Ils considèrent que les autorités françaises ont défendu pendant des années des islamistes tchétchènes au prétexte qu'ils étaient indépendantistes et qu'ils n'ont de ce fait aucune obligation envers des Français considérés comme des donneurs de leçons, droits de l'homiste.
Le temps aujourd'hui sera humide sur une majeure partie du pays, nous dit Météo France. Des nuages, de la pluie et des orages, excepté sur la frontière nord. Quelques éclaircies dans le sud, près de la Méditerranée cet après-midi. Côté température, les minimales varieront entre 7 et 15 degrés, les maximales entre 7 et 22 degrés.
Merci beaucoup Adrien Toffolet.